radiocultura.eus.
Bonjour, nous sommes élèves de seconde professionnelle agroéquipement et aménagement paysager au lycée Armand David de Hasparren. Dans le cadre de nos cours d'éducation socioculturelle et d'EMC, nous avons effectué une série d'interviews qui présentent des parcours de migrants. L'idée était de découvrir les parcours de chacun d'eux, ce qui les a poussés à partir, découvrir leur parcours, leurs difficultés, leurs aspirations à venir, etc. Ce projet a été possible grâce au travail de Radio Cultura et l'aide précieuse de l'association d'accompagnement aux migrants Bidekoekin et Etorkinekin. Merci à eux. Maintenant, écoutez, découvrez, voyagez.
Bonjour, moi je m'appelle Esteban, donc je suis d'Armand David. Je vais vous poser ma première question. Donc, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Merlin. Je viens du Cameroun.
Pouvez-vous nous présenter votre lieu d'origine, donc pays, ville ou village ?
Comme je disais, je viens du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays premièrement sous deux colonisations. La colonisation allemande et la colonisation française et anglaise. Donc, moi, j'ai grandi à l'ouest du Cameroun. Donc, chez nous, on dit les Bamileke. Le Cameroun, déjà, a 10 régions. Et près de 258 langues. Donc chaque village a sa langue, chaque village a sa culture, chaque village a... En fait, de même qu'il y a autant de langues, il y a autant de plats, autant de mets, autant de diversité en fait au Cameroun.
Et si vous pouvez nous parler un peu de votre famille, donc parents, frères, sœurs, si vous avez grands-parents.
Je suis l'aînée d'une fratrie de 6. J'ai 4 sœurs et un petit frère. J'ai 3 enfants. 2 avec moi et 1 resté au pays.
Je vais vous poser moi aussi une question. Donc, Mickaël de Radio Cultura, vous avez parlé qu'il y a des centaines de langues au Cameroun.
Oui.
Quelles sont les langues que vous avez réussi à parler
On ne peut pas réussir à toutes les parler. On peut essayer d'entendre un peu en fait. Il y a des personnes qui réussissent à toutes les parler, hein, mais moi je parle quand même quelques langues de l'Ouest Cameroun. Vu que j'ai passé plus de temps là-bas, aussi un peu du béti. Le béti, c'est une langue du centre, mais pas beaucoup en fait, je ne parle pas assez.
Et les langues que vous parlez, comment elles s'appellent ?
Déjà, au Cameroun, la langue officielle, c'est le français et l'anglais, comme je disais. Donc, dès le bas niveau, on nous apprend à parler français et anglais pour le côté anglophone. Parce que comme je disais aussi, le Cameroun est divisé en deux, le côté francophone et un côté anglais. Donc, moi je parle du Bamileke, Baganté, Bamena, Bafang et du Béti, comme je disais aussi, qui est du sud Cameroun, du sud et du centre. Bon, ça se ressemble, mais il y a des petites différences, des petits mots qui font la différence dans chaque langue.
Moi, je m'appelle Odey et je vous pose des questions. Quelles activités ou métiers avaient vos parents ?
Enchantée, Odey. Ma maman, déjà, en fait, je viens dès le début. Le Cameroun, comme l'Afrique, les femmes en majorité, elles sont ménagères. Ménagère chez nous, ce n'est pas parce que tu fais du ménage, en fait. Ménagère, c'est quand tu es femme au foyer, tu es à la maison, tu t'occupes que des enfants. Et puis, c'est l'homme qui va chercher pour vous amener. C'est vrai que les choses ont changé et qu'aujourd'hui, les femmes commencent aussi à travailler, mais en majorité des cas, toujours est-il que les femmes chez nous sont des ménagères.
Et quels sont vos souvenirs d'enfance ?
Moi, j'ai eu une enfance plutôt joyeuse. Je ne suis pas des personnes qui tuent leur passé pour se créer un futur ou un présent. Je suis une personne, je prends la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à moi, tout en remerciant, déjà je suis croyante, tout en remerciant Dieu de ce que j'ai vécu dans le passé. Parce que pour moi, c'est grâce au passé qu'on parvient à se faire un présent et forger son futur. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Bon, pas ma grand-mère à moi, je dirais ma tante grand-mère. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est la tante à ma mère, en fait. Nous, on dit toujours grand-mère. Donc, j'ai grandi avec ma grand-mère et chez nous, c'était les champs. On partait aux champs, on part à l'école. Excusez-moi, je suis en France aujourd'hui, il y a mon fils qui est à l'école. Il a une vie différente de la mienne, mais je crois que il a une enfance différente de la mienne, mais je crois que la mienne, elle a toujours été la meilleure. Pourquoi? Parce que moi, je partais au champ. Chez moi, je ne connais pas que le matin, on se lève, on prend le petit déjeuner, j'ai du chocolat au lait, des croissants, du pain au chocolat, machin, consomme. Non, chez nous, le matin, bon, moi, je parle de mon enfance, donc il y a 22 ans de cela, 20 ans même. Tu te lèves le matin, tu vas manger du riz couché, donc la nourriture d'hier qu'on a fait hier, et puis on va manger le matin. On va partir à l'école. À l'école, on n'a pas de goûter, nanani, nanani, non. À l'école, c'est ce même repas-là que tu vas soit amener pour manger à midi, soit le midi, tu vas manger des beignets. Bon, des beignets aussi, nous, on fait des beignets. C'est toujours pas les mêmes beignets que vous avez l'avantage d'avoir ici. C'est des beignets faits avec des tubercules de manioc. Ça aussi, je sais que vous ne connaissez pas, mais essayez de partir sur Google pour vraiment prendre plus ample de connaissances. Mais en majorité, c'était les champs. On partait au champ le week-end. On faisait la culture, on cultivait, on récoltait de nous-mêmes, des mains en fait, des mains.
Bonjour, moi je m'appelle Esteban. Est-ce que vous aviez des amis et quels étaient vos loisirs?
Oui, bonjour Esteban. Des amis, oui. Comme je disais tantôt à Odé, j'ai eu la meilleure enfance. Parce que c'est une enfance différente de l'enfance que je vois ici en Europe, en fait. Par exemple, nous, on va se retrouver dans la rue. On n'a pas la pression de dire on va porter des claquettes, on est obligé de mettre les habits, non. On va sortir en short, là, en culotte. Bon, en fait, en caleçon, quoi. On va sortir en culotte. Étant enfant, on va sortir en culotte. On se retrouve tous devant, dans la cour, bien dans un espace vide. On va jouer au ballon, tout ce qu'on trouve, on joue aux billes, on va jouer à la corde à sauter. Donc franchement, des jeux, oui. Mais on n'a pas eu la chance d'avoir tous les jouets que nos enfants, en fait que mon fils Anderson par exemple, il a aujourd'hui. Il a accès à tous les jouets dont il a besoin, des associations qui en donnent. Mais nous, on n'a pas ça, on n'a pas eu cette chance-là. Et on jouait en communauté en fait, donc c'est ça. À l'enfance, c'est parti chercher de l'eau au marigot, c'est avoir de la bougie ou la lampe à pétrole à la maison, c'est étudier avec la lampe, c'est se lever le matin, aller à l'école, finir l'école, aller au champ, avec des amis, avec... En fait, les amis pour nous, c'est... Nous sommes tous amis au village, en fait. Donc, nous sommes tous amis.
Quelle étude avez-vous fait dans votre pays d'origine?
Moi, j'ai eu la grâce d'étudier jusqu'en classe de 4e. Je ne sais pas comment ça se dit ici, parce que je ne sais pas. Mais j'ai fait de la CIL. La CIL, c'est ce que vous appelez peut-être CP1, je ne sais pas. Donc la CIL, c'est de la CIL en 4e. Donc j'ai arrêté l'école en 4e, par faute de... pas de moyens. Bon, peut-être de moyens. Bon, en fait, ça ne dépendait pas de ma volonté, mais bon. J'ai fait une étude, l'école, jusqu'au lycée général. Bon, lycée aussi, c'est aussi différent. L'Afrique et l'Europe, c'est aussi différent parce que quand on dit lycée, de la 6e jusqu'en terminale, le lycée, c'est le lycée, c'est où on fait la générale. Là, on n'apprend pas des métiers, en fait. Quand on dit collège chez nous, collège, c'est aussi de la première année, genre de la 6e jusqu'en 3e année. 3e année qui correspond à la 3e, donc pour faire le cap. Justement, mais le lycée, pourtant, on fait le BPC, on fait le probatoire. Le probatoire, ici, on ne connaît pas. Chez nous, on fait le probatoire, on fait le bac. Donc, moi, j'ai fait la générale et je me suis arrêtée en 4e.
Aviez-vous de rêves ou de projets de vie dans votre pays d'origine?
Je ne saurais répondre à cette question parce que, comme je vous ai dit, j'ai arrêté l'école en 4e. En 4e, déjà, tu es une jeune petite fille, tu as peut-être tes rêves, tu as peut-être tes ambitions, mais tu penses réellement pas à ça parce qu'en ce moment-là, tu penses plus à t'amuser. Quand je dis t'amuser, c'est le présent, en fait. Tu penses pour le futur, tu te projettes pas très loin, étant toute petite, en fait. C'est au fur et à mesure que tu grandis et que tu graves certains échelons que tu mûris ta réflexion et tu parviens à te forger des projets vraiment à long terme. Sinon, dans l'enfance, on se forge des projets à une semaine. Bon, la semaine prochaine, je vais aller à Bordeaux. La semaine prochaine, je vais être peut-être ici. Mais c'est avec un certain âge qu'on se forge vraiment, vraiment des projets solides à long terme. Donc là, franchement, je ne saurais vraiment, vraiment pas vous répondre clairement, mais c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus.
Bonjour, je m'appelle Mathis. Et avez-vous aidé vos parents dans leur activité ?
Bonjour Mathis. Dans l'activité, les travaux champêtres, oui. C'est une obligation, c'est un devoir en fait. C'est une obligation d'aider son parent parce que tu ne peux pas t'asseoir à la maison et attendre ton parent va peut-être chercher de l'eau pour que tu puisses boire. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison pour que ton parent passe chercher de l'eau pour venir laver peut-être tes habits ou faire la vaisselle. Tu ne vas pas t'asseoir et ta maman va partir porter peut-être un fagot de bois pour venir te faire à manger. Ou alors, tu ne vas pas t'asseoir et attendre, ta maman va partir récolter soit du maïs ou du manioc pour venir cuisiner. Tu vas manger. Donc, on est obligé d'aider ses parents dans ce sens-là. Obligé.
Jusqu'à quel âge êtes-vous resté dans votre pays et avez-vous vécu toujours dans le même village ou ville ?
Non, je n'ai pas toujours vécu dans le même village. Je suis restée dans mon pays jusqu'à 23-24 ans. Je suis restée dans mon pays jusqu'à 23-24 ans. Excusez-moi, ce sont des dates, franchement, je suis fatiguée de retenir des dates en France que maintenant j'oublie tout. Mais bon, je ne suis pas restée sur place dans mon pays. Dans mon pays, je me suis beaucoup déplacée. Donc, je n'étais pas toujours sur place, mais j'ai passé la majorité de mon temps à l'Ouest Cameroun.
Quelles sont les raisons de votre départ ?
Comme je disais, j'ai arrêté l'école en classe de 4e et c'est justement l'une des raisons en fait. J'ai été mariée de force. Bon, mariée de force, c'est vrai que toutes les femmes sont appelées à... Bon, chez nous, c'est la loi, hein, toutes les femmes sont appelées à être mariées. Mais pour moi, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête parce que j'avais envie d'étudier, j'avais envie d'aller à l'école, d'apprendre plus. Mais j'ai été mariée de force à quelqu'un que je ne connaissais déjà pas et quelqu'un qui était hyper plus âgé que moi. En fait, en quelque sorte, j'ai été vendue. Ben, j'aime pas trop employer le terme vendue parce que j'ai quand même encore un peu de respect pour moi-même ou de dignité que je ne préfère pas dire que j'ai été vendue. En fait, mon grand-père oncle, il avait contracté une dette avec quelqu'un. Et il a fait comme un échange, comme un troc en fait. Donc c'est pourquoi je considère que c'est une vente. En fait, malgré ça, j'ai supporté, j'ai eu mon fils Alan qui est resté au pays. Et après, vu que le monsieur il était âgé, il est décédé, ça a été comme un échange encore, un deuxième échange. Mais là, j'étais déjà un peu plus mature, j'ai dit non, ça ne peut pas se répéter à deux reprises. Et j'ai voulu partir, mais là, c'était impossible. Quand tu es mariée, tu appartiens déjà à cette famille, plus à ta famille. Ma maman n'étant plus au pays, ma maman étant partie aussi dans son mariage, étant partie au Mali avec son mari, alors je me suis retrouvée toute seule.
À quel âge avez-vous été mariée de force ?
À 17 ans. En fait, 16-17 ans. Donc je dis 17 ans, c'est 16-17 ans.
Et pourquoi vous êtes venue au Pays Basque ?
Je venais pour le Pays Basque. J'ai marché du Cameroun jusqu'en France à pied. En fait, quand j'ai dit à pied, j'ai vu l'expression de vos visages. J'ai vu l'expression de vos visages. Ben oui, c'est à pied. À pied, pourquoi ? Parce que je n'ai pas pris de vol. J'ai peut-être emprunté des voitures, mais peu. Plus à pied. J'ai fait le Cameroun, le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne. Et déjà, si vous savez... Le Niger a le Sahara, c'est le plus grand désert d'Afrique, de toute l'Afrique. Et vous imaginez qu'on traverse le désert du Sahara à pied. À pied, oui, à pied. Vous ne pensez pas qu'on est ici, on vient au Pays Basque en fait parce qu'on veut, pour le plaisir ou je ne sais pas trop, pour quelles raisons. Mais franchement, toute personne a des raisons très valables. Très, très valables. Je pouvais rester au Nigeria, mais le Nigeria parle anglais. Je ne parle pas anglais. je parle français. Je pouvais rester en Espagne. L'Espagne, ça parle espagnol. Je connais rien en espagnol. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas choisi le Pays Basque. Le Pays Basque m'a choisi.
Combien de temps il a duré votre voyage?
Rien que la route, j'ai rien que la route, 3 mois. Et pour arriver en France, 2 ans, 3 mois. 2 ans, 3 mois parce que j'ai fait 2 ans au Maroc, plus les 3 mois de route. Donc ça fait 2 ans, 3 mois.
Et ce voyage, avec qui vous l'avez fait?
Au départ, toute seule. Quand je dis toute seule, c'est toute seule, mais on rencontre quand même des gens également en route qui font le même voyage, le même trajet, qui ont peut-être une destination différente que la nôtre ou qui savent où ils vont, mais chacun est seul.
Et avec les autres personnes, vous avez eu quelle relation pendant le trajet?
Tout au départ, c'est l'entraide. Déjà, en Afrique, le mot d'ordre, c'est l'entraide. Le mot d'ordre, c'est la famille. Le mot d'ordre, c'est la fraternité. Donc, on s'entraide, on est obligé de s'entraider. Et au final, je me suis retrouvée avec un homme qui est aujourd'hui le père de mes enfants. Et malheureusement, il est encore au Maroc. Donc, en bref, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais...
Et quel itinéraire vous avez suivi au début?
Comme je disais, j'ai fait le Cameroun, Nigeria, Nigeria, Niger, Niger, Algérie, Algérie, Maroc, Maroc, Espagne, Espagne, Bayonne. Bayonne parce que je considère Bayonne, je considère les Pays Basques comme un autre pays que la France.
Et par quel moyen?
À pied, en voiture et pour traverser la Méditerranée, par bateau. Bon, pas bateau, hein. Quand on dit bateau, c'est pas bateau. C'est parce que je sais pas comment je vais appeler ça. C'est pourquoi je dis bateau. Mais sinon, c'est pas bateau en fait. On peut dire pas pirogue. Ouais. Parce que quand on dit bateau, on voit. Mais c'est pas. Non. Pas pirogue.
Avez-vous souffert pendant votre voyage?
Ouais. Énormément. Énormément parce que tu connais pas où tu vas. Tu connais pas ce qui t'attend devant. Déjà, tu n'es pas habitué à la température, que ce soit la chaleur, que ce soit la fraîcheur. Tu n'es pas habitué à tout ça, mais tu es obligé de t'y faire. Et tu arrives quelque part où tu n'as personne, tu ne connais personne, personne d'ailleurs ne te connaît. Tu es obligé de survivre. Donc, pour survivre, c'est la souffrance. Il faut te trouver un endroit où dormir, il faut te trouver de quoi manger. Si tu es malade, il faut te trouver les moyens de te soigner. Donc, ouais. Il y a de la souffrance, énormément, énormément. Ceux qui ne supportent pas meurent. Hein. Ceux qui ne supportent pas meurent dans le désert.
Mmh. Ça, c'est... complément à cette question, est-ce que vous avez eu peur?
Bon, la peur, c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment naturel, mais bon. Moi, je remets tout entre les mains de Dieu. Je crois vous avoir dit depuis le début que je suis croyante. Donc, je me réfère à ce que l'Éternel a prévu pour moi.
La traversée du désert ou par exemple la traversée par bateau aux îles Canaries, ça a été...
La traversée du désert, le plus difficile, ça a été de supporter le froid. Pour nous qui venons d'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique noire, je vais dire ça comme ça. Excusez-moi du mot noir, mais je suis obligée de l'employer parce que l'Afrique, justement, est aussi divisée par deux. Donc, pour nous qui venons de l'Afrique subsaharienne, donc de l'Afrique noire, nous sommes habitués à ces souffrances-là parce que pour vivre, on doit souffrir. Même si vous ne souffrez pas, on vous cultive déjà le moral, le mental par ça. Donc, nous sommes en quelque sorte habitués, pas habitués en fait. On ne s'habitue pas de la souffrance, mais on sait prendre sur nous. On sait prendre sur nous. Donc, la souffrance, oui, on l'a vécue, on continue de le vivre. Même étant ici en France, moi, je continue de souffrir. Hein. Et la souffrance d'ici, elle est encore plus pire. Pour moi, je dirais ça. Juste, je ne peux pas rentrer, mais sinon, la souffrance pour moi ici en France, elle est pire.
Êtes-vous arrivé à l'endroit où vous souhaitez?
Non. Bon, en fait, je souhaitais arriver, je cherchais juste une sécurité et peut-être une meilleure vie. Mais À Bayonne, quand même, je dirais oui, mais je dirais aussi non. Je n'ai pas souhaité être en France. J'ai été guidée, en fait. Guidée peut-être, bah, je ne sais quoi, mais j'ai été guidée de venir en France. Ce n'est pas comme si, en quittant de chez moi, je disais je vais en France. Non. J'ai été guidée et amenée en France, en fait.
Êtes-vous déçue ou satisfaite?
Les deux. Je suis déçue, je suis satisfaite. Déçue parce qu'on ne comprend pas vraiment les motivations, on ne comprend pas vraiment nos motivations. Ce qui nous fait quitter de chez nous. On ne comprend pas les raisons, on les explique, mais beaucoup de personnes ne veulent pas les accepter. La réalité, elle est telle qu'elle est. Plein ne veulent pas le comprendre, plein ne veulent pas le voir, plein ne veulent pas l'accepter. Mais nous, en fait, moi personnellement, je sais ce que je vis, je sais ce que je traverse, je sais les raisons pour lesquelles je suis quittée de chez moi. Elles sont réelles, mais ça me fait très très mal qu'on n'arrive pas à le croire, qu'on n'arrive pas à le voir, et c'est dommage, quoi.
Avez-vous encore des attentes?
Dans quel sens? Dans quel domaine?
Dans la vie en France.
Dans la vie en France. En France, déjà, excusez-moi, ce n'est pas contre vous, mais en France, je ne suis pas bien. Je suis bien parce que je rencontre des personnes bien, mais je ne suis pas bien. Pourquoi? Parce que pour moi, la France me rejette, en fait. Pourtant, la France, chez moi, je vais dire le Cameroun, c'est mon père. Et la France, c'est ma mère. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut deux personnes, un père et une mère, pour faire un enfant. Si je parlais rien que la langue de chez moi, que le Cameroun m'avait fait à l'image du Cameroun, à l'image de l'Afrique, je ne devais pas en vouloir à la France, en fait. Mais j'ai été faite à l'image du Cameroun et de la France. Parce que je parle français, ce n'est pas la langue de chez moi. Le Cameroun, ce n'est pas la France. Mais pourquoi je parle français? J'écris le français, je lis le français. Je suis en train de parler avec vous, c'est un discours que je fais, c'est en français. Vous voyez un peu, bah, ça veut dire que la France, c'est ma mère. Un enfant, il a deux parents. J'ai le côté de mon père, qui est le plus fort, qui est le Cameroun. J'ai le côté de ma mère, qui est la France, qui est, disons, à 40%. Bah, pourquoi la France, elle me rejette? Ah bah, pas seulement moi, hein. J'ai dit nous. Quand j'ai dit moi, c'est parce que c'est moi qui parle devant vous, en fait.
Seriez-vous capable de refaire ce voyage?
Le refaire pour les mêmes raisons qui m'ont fait quitter dès le départ, oui, je serais obligée parce que c'est en quelque sorte sauver ma vie. Mais si c'est pour des raisons quelconques, les raisons dont les Français imaginent que nous sommes là, je serais restée chez moi. Vivre des champs, vivre de la culture ou je ne sais pas quoi de quoi, mais si j'ai pu grandir, ça veut dire que je pouvais m'en sortir. Donc, si c'est pour les mêmes raisons qui m'ont fait quitter chez moi, oui, je serais obligée de refaire ce voyage. Mais si c'est dans un autre sens, non, je resterai chez moi.
Quelle est votre situation maintenant?
J'ai pas de situation. Je suis au point zéro, au même point. Ça fait 2 ans que je suis en France, mais je suis au point zéro. Et avec une dette de 5 800 et avec une dette de 5 800 € que je dois au gouvernement, à l'État français. En fait, je ris, ça ne fait pas rire. C'est juste parce que je n'ai pas envie de pleurer devant vous. En fait, mon fils, il est encore dans mes bras, donc je n'ai pas envie de pleurer. Je dois en France 5 800, ce que vous, peut-être vous n'imaginez pas. Je dois en France 5 800 que j'ai pas mangé, que j'ai jamais reçu, juste parce que j'ai accouché de mon fils. J'aurais dû garder la grossesse là 10 ans, et quand je devais avoir l'argent, j'allais payer pour accoucher. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je dois 5 800 en France. Donc, ma situation, elle est pire, en fait. Je suis quittée de chez moi avec 0 centime. J'arrive en France, j'ai 0 centime, mais j'ai plus de dettes.
Est-ce que c'était dur de trouver un travail ou un logement quand vous êtes arrivé en France?
Je ne travaille pas. Jusqu'ici, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Le logement, grâce à l'association, grâce aux associations, grâce à Etokinikindi a quitté, j'ai un logement. Grâce aussi à des personnes de bonne volonté, des personnes qui ont la main sur le cœur, des personnes différentes de d'autres, je parviens à vivre avec mes enfants, à manger et à subvenir à leurs besoins. Donc, à part ça, je n'ai pas de situation. Personnellement, je ne fous rien. Je suis comme un légume, en fait.
Et la situation administrative?
Je n'ai pas de situation administrative. Je n'ai pas. Franchement, j'aimerais vous demander aussi si vous pouvez faire passer ce message-ci, même au gouvernement, je ne sais pas à qui, que ça leur retrouve. Parce que franchement, je n'ai pas de situation administrative et je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis assise là. J'ai dit que je suis en France, mais je ne suis pas en France en fait. En réalité, je suis comme ça. Je suis en France, mais je suis là. En fait, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui vous motive à... En fait, je parle à mes frères. Excusez-moi, je vous appelle mes frères. Chez nous, c'est comme ça. Hein. On est tous des frères, on est tous... Donc, si ça ne vous plaît pas, excusez-moi vraiment, mais je ne sais pas ce qui vous motive vraiment dans cette démarche-ci de vouloir savoir ou prendre une plus ample information sur la migration. Mais franchement... Ce qu'on nous montre à la télévision ou dans les journaux ou quoi que ce soit, il y a une part de vérité, mais elle est archi, archi fausse. Je dis bien archi fausse. Je ne gagne rien, je ne paie rien à venir vous raconter ce que je vous raconte. C'est ma vie, je peux la garder pour moi. Je n'ai rien à foutre. Vous n'allez jamais me demander quoi que ce soit. Mais il y a des réalités, ça je ne vais pas mentir. Mais en majorité, elle est fausse. Elle est fausse, fausse, fausse de chez fausse. On dit, on vient, j'ai cru lire quelque part qu'on vit des aides ici. Ça fait 2 ans que je suis en France, 2 ans moins. Je suis en France avec 2 enfants. Je ne travaille pas, j'ai aucune aide. Je dis bien aucune aide. Je suis avec 2 enfants. L'aîné, il a 4 ans. Lui, il a 1 an et demi. J'ai aucune aide. Je ne demande pas qu'on m'aide. Franchement, je ne demande pas. Grâce à Dieu, il y a Etokinikin qui me vient en aide. Si seulement on me permettait de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour pouvoir payer même ces 5 800 dont je dois, dont on me réclame, moi, ça devait m'arranger. Mais ça aussi, on vous empêche de travailler, on vous empêche de rien faire. Comment on va s'en sortir? On a tous besoin de quelqu'un pour pouvoir vivre, en fait. On a tous besoin de quelqu'un pour pouvoir vivre. Donc, je ne sais pas. La France, elle est comme elle est, c'est un bon pays, oui, il y a la stabilité, oui, mais les aides dont on parle, moi personnellement, je ne vois pas. Et je ne pense pas que je vais pas travailler parce que j'attends une quelconque aide du gouvernement. Moi, d'office, on me refuse même l'accès au travail. Bah, comment je vis? Donc, essayez vraiment, vraiment de chercher, de prendre encore plus d'informations à ce sujet. Et je crois que vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas, plein de choses dont vous ignorez. Et merci pour l'intérêt que vous nous apportez. Merci de vouloir connaître la réalité de vous-même.
Est-ce que vous avez un rêve?
Ouais, de pouvoir m'occuper personnellement de moi, sans compter sur quelqu'un. De pouvoir avoir ces papiers-là. Personne n'est né avec les papiers, mais... Nous, on le réclame. Donc, de pouvoir avoir ces papiers-là, cette carte de séjour pour pouvoir travailler et être indépendante, dépendre de moi-même. En fait, mon rêve le plus lointain, c'est que tout ça change, en fait. Qu'on apprenne le vivre ensemble et qu'on ouvre les mœurs à tout le monde.
Mieshka, Marine.
Mieshka.
Radio Cultura. Punto Eus.